L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Elle lui demande s'il a déjà embrassé une fille. Il lui dit que non. La mère lui montre sa chambre. Nuit douce dans son lit. Le lendemain, après le petit déjeuner à la cuisine, il dit qu'il veut s'en retourner, suivre sa route. La mère lui dit de rester un peu, qu'il distrait sa fille. Elle est triste, elle n'a pas d'amis de son âge. Il veut bien encore rester un jour. La jeune fille lui dit qu'elle l'aime. Il lui dit, vous me connaissez à peine. Elle lui dit, on peut aimer comme ça. Je vois votre beauté. Il lui dit, vous aimez une image. Nous sommes tous une image. Il est malgré tout flatté qu'elle dise qu'elle l'aime. Plus tard, il entend la mère et la fille discuter. La fille demande à sa mère de tout faire pour le garder. Sa mère lui demande ce qu'elle fera de lui. La fille lui dit, il sera à moi. Il se dit qu'il ferait bien de s'en aller avant qu'il ne le puisse plus. Il leur dit qu'il veut s'en aller. La mère et la fille ne veulent pas. Il décide de s'en aller dans la nuit. Et il se met en route. Mais la jeune fille l'a entendu et l'a rejoint à cheval. Il lui dit que ce n'est pas bien de partir comme ça, sans rien dire. Il lui demande pardon. Elle lui demande s'il était malheureux chez elle. Il lui dit que non. Mais il a des choses à faire. Elle est triste. Vous ne m'aimez pas ? Il lui dit. Oui, j'ai l'amitié pour vous. Vous en aimez une autre ? Non. Elle l'embrasse sur les lèvres et le laisse partir. Il continue sa route. Il lui reste un peu de provisions. Le chemin sera long. Très vite, il n'a plus de provisions. Alors il demande à des paysans. Certains lui donnent quelque chose. Du pain, parce qu'ils ont un peu de blé. On fabrique une espèce de pain avec la pomme de terre lorsqu'il n'y a pas de blé. C'est pas trop désagréable. Après un long voyage qui lui a paru long, long, il arrive enfin à Lyon, épuisé. effondré. Besoin de boire, bronzé. Il est maigre. Fais attention à ne pas être vu. La ville est encore plus délabrée que lorsqu'il l'a quittée. Il va voir son ancien quartier, voit l'église en ruine et le presbytère. Tout est abandonné, même le dispensaire. Il se demande où est passé Gilles. Se renseigne sur Gilles. On lui dit qu'il a disparu et que la police a dû le prendre parce qu'on fait la chasse aux prêtres. Il ne sait comment faire. Puis il se souvient que Marie... Oui, lui a donné son adresse. Alors, il décide, c'est d'aller la voir. Il y va, trouve son immeuble. Il entre dans son immeuble. Sonne à la porte. C'est elle qui l'a ouvert. Et surprise de voir ce garçon qui ressemble à Pierre en guenille. Il se présente. « Bonjour, je suis Pierre. » Elle est gênée. « Entrez. » Je suis venue pour savoir si vous avez des nouvelles de Gilles. Elle lui dit. « Il est parti, vous cherchez. » Il est allé à Paris, je crois. Pierre n'en peut plus. Venez vous asseoir. Elle le sert à manger. Tenez, buvez. Merci. Pris de remords, elle lui dit ce qu'elle a fait. Il a envie de la gifler. C'est de sa faute si Gilles et lui se sont séparés. Mais garde sa colère pour lui. Elle lui dit, « Vous me pardonnez, j'étais folle. » Il lui dit, « Oui, folle, jalouse. Jalouse de moi, quelle idée. Et pourquoi n'avez-vous pas retenu Gilles ?» Elle lui répond, « J'ai tout fait, mais il tenait tellement à vous voir. » Pierre soupire et dit, j'ai fait tout ce voyage pour rien. Elle lui dit, non, tu es venu, c'est pour que je te pardonne. Il lui dit, je vous pardonnerai lorsque nous serons ensemble. Il lui est peut-être arrivé malheur, il chasse les prêtres. Elle lui dit, oui, et avant qu'il s'en aille, il était déjà obligé de se cacher. Il lui dit, l'association a disparu. Oui, la police est venue, a tout détruit. Nous vivons une époque terrible. Le roi, c'est le démon. Pierre lui dit, pas la peine d'être le démon pour faire le mal. Le mal est en nous. Elle lui dit, je le sais, hélas. Je suis heureuse que vous soyez revenu. Il lui dit, ça n'a pas été facile. Là-bas, c'était l'enfer. On est comme des esclaves. J'ai réussi à me sauver grâce à les camions qui venaient chercher les déchets. Et le voyage à pied a été dur. J'ai même failli mourir. Et il le lui raconte. Elle lui demande pardon. J'ai fait du mal à un enfant. C'est impardonnable. Mais je vais tout faire pour me faire pardonner. Il lui demande, quoi? Vous pouvez rester ici? Il lui dit, c'est impossible. Elle lui demande, pourquoi? Gilles a bien vécu ici? Pour se cacher? Il lui dit, je dois le retrouver. Elle lui demande, comment? Il lui dit, en retournant à Paris. Mais c'est de la folie! La folie, c'est de ne pas y retrouver Gilles, qui a peut-être besoin de nous. Et puis, c'est peut-être trop tard. Si l'on a vu qu'il était prêtre, on l'a peut-être tué. Elle lui demande, mais comment ferons-nous pour le retrouver dans Paris? C'est grand. Vous n'avez pas d'adresse, rien. Et puis, il est peut-être mort, Pierre lui dit. Non. Il le faut. Elle lui dit, vous avez raison. Nous allons prier pour lui. Il lui dit, ça fait une éternité que j'ai pas prié. Elle lui dit, ça reviendra tout seul. Et il se met à prier pour Gilles. Elle réussit à le convaincre de rester quelque temps chez elle. Elle est heureuse. Lui se tient sous ses gardes. Ce qu'il a vécu l'a rendu prudent. Il est plus homme de caractère. Il lui demande ce qu'elle fait pour vivre. Elle lui dit qu'elle fait des ménages chez des vieux. C'est pénible, mais ça permet de vivre. Personne ne sait que j'ai connu un prêtre. Il faut cacher quand on est catholique, musulman ou autre. La religion, les religions, surtout la catholique, sont interdites. Chacun prie chez soi en cachette. Oui, en cachette. Certains sont devenus plus fervents depuis que la religion est interdite. Elle devient un moyen de résistance. Et puis, avec la foi, on peut croire à un monde meilleur. Pierre lui dit, oui, un monde meilleur. Alors il reste quelque temps chez elle, le temps de reprendre des forces. Elle le loge comme Gilles. La journée, elle le laisse pour travailler et lui dit de ne pas ouvrir à qui que ce soit. Il y a des mouchardes partout. Avec Marie, il prépare son retour à Paris. Tout ce qui se passe est le fait des hommes. Dieu a donné le don de croire en lui, de croire ses préceptes, mais les hommes préfèrent le diable. Lorsque Pierre est seul, il réfléchit. Il se dit que ce qui se passe, cette débauche, se laisser aller, est diabolique. que tout ça, c'est de la misère morale. C'est dû à la société que les hommes acceptent cette misère parce qu'elle leur permet d'être libres, de faire ce qu'ils ont envie de faire, de vivre en instinct, en barbare, mais qu'ils ne voient pas le prix qu'il y a à payer, qui est le don de leur âme au diable, parce qu'ils ne croient pas plus au diable qu'à Dieu, ils ne croient qu'en eux-mêmes. Ils se croient sans limite. Malheureusement, lorsqu'ils s'apercevront qu'ils ont pris une mauvaise route, il sera trop tard. Tout ce qui leur arrive, c'est l'homme qui le veut, et personne d'autre, pas Dieu. Dieu a donné aux hommes l'intelligence pour choisir entre le bien et le mal. C'est entre lui et le diable. Dieu a voulu rendre les hommes libres d'accepter Dieu. Dieu a créé le mal, le démon, qui est son contraire, pour que les hommes puissent librement aller à lui. Il n'a pas voulu que les hommes n'aient pas de choix et soient comme des marionnettes qui, sans réfléchir, vont à lui comme ça. Non, il a voulu que sa créature la plus parfaite qu'il ait faite puisse être libre. Et c'est pour ça qu'il a créé le démon, pour que l'homme puisse faire un effort pour aller à lui et non qu'il le fasse comme ça. Plus on lutte pour avoir quelque chose, plus c'est grand de l'avoir et on est heureux de l'avoir tout en tenant à cette chose. À notre époque, une grande partie des gens ont accepté la facilité et le laisser-aller. Ils ont éjecté Dieu de leur corps. Pierre se dit, c'est qu'il faudrait que l'homme lutte contre le démon. Mais personne n'en a envie. Personne. Le démon leur fait croire à une vie meilleure, sans contrainte. La contrainte, c'est ce que déteste l'homme, et le démon l'a compris. Mais sans qu'il s'en aperçoive, l'homme s'est mis des contraintes, car il y faut des attitudes pour vivre, comme le démon le veut. Il y faut des habitudes, oui, et des attitudes. Voilà où nous en sommes, pense Pierre. Pierre veut revoir Gilles. Il veut retourner à Paris. Il ne sait comment il va faire pour le retrouver. Mais Paris est si grand. Il faut qu'il aille dans cette ville où il est. Il le dit à Marie. Marie est inquiète. A peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle lui demande comment il fera pour le retrouver au milieu de tout ce monde. Et que sûrement, il doit se cacher parce qu'il est prêtre. Pierre lui dit qu'il verra, mais il est prêt à repartir. Elle lui dit, faire tous ces kilomètres à pied, j'y suis arrivé une fois, je peux recommencer. Elle réfléchit, lui dit, je vais vous donner de l'argent, vous prendrez le train, merci. Elle lui dit, c'est mes économies, mais je vous les donne. Il lui dit, si c'est pour que vous vous sacrifiez, non, je ne veux pas. Elle lui dit, laissez-moi réparer le mal que je vous ai fait à tous deux. J'accepte. Une fois qu'il ait l'argent, il prépare ses bagages et lui donne une valise en carton marron, de quoi manger, un peu de linge qui était à son frère, à son père. Il s'habille proprement, ressemble à un garçon qui part en vacances, il a même un béret. Puis, ils vont à la gare de la Part-Dieu. Il y a du monde pour prendre le train. Beaucoup de policiers, CRS et même des soldats. Ils surveillent les allées et venues des gens. Ils peuvent même demander des papiers et regarder dans les bagages. Pierre n'a pas de carte d'identité ni autre papier. Si on le lui demande, il est perdu. On doit avoir sa photographie. Comme fugitif de chantier, et l'on risque même de le fusiller. Beaucoup de clodos au milieu des voyageurs et des voleurs à la tire. Attention aux bagages. Pierre se dit qu'il ferait mieux c'est de partir à pied. Marie va chercher les billets et lui dit « Ça vaut mieux que ce soit moi. » Parce qu'il a peut-être ta photographie. Elle va prendre une place de suite pour Paris, gare de Lyon. Elle paye en liquide. Le prix de la place est cher. Le caissier regarde son argent. Il n'a pas l'habitude qu'on lui paye en billet. Puis il lui tend un ticket en se disant que c'est une fille qui a dû faire la manche pour avoir de l'argent, pour faire la pute. Les gens trouvent toujours une solution à ce que l'on fait. Ils trouvent toujours le côté dégueulasse de la chose. Il aurait pu dire qu'elle a travaillé dur pour se payer un billet. Non, c'est une pute. Elle retrouve Pierre, lui donne le billet. Le train part dans 5 minutes. Il faut aller au quai A-Sud. Ils y vont. Il la suit. Ils sont bousculés par la foule. Font attention à leurs affaires. Sur le quai, il y a du monde. Des gens de toutes sortes. Pierre est inquiet. Il se dit que le train va peut-être l'emmener à sa prison. Qu'il sera prisonnier dans le wagon et qu'il ne pourra pas en sortir. Faut-il bien de partir comme ça? TGV n'a pas d'arrêt. S'il avait des arrêts, il pourrait fuir. Mais s'il est remarqué, mais là non, rien. TGV est annoncé. Il faut faire vite pour rentrer dans le wagon. Plus le train va vite, moins on a le temps d'entrer dans le wagon. On pourrait laisser 5 minutes de plus pour que les gens entrent dans le wagon en évitant de courir. Est arrivé. Oui, il pourrait attendre 5 minutes de plus pour les personnes âgées, les handicapés, les malades, ceux qui ont des bagages. Marie et Pierre se disent au revoir. Il la remercie pour tout. Elle lui dit qu'elle a fait ce qu'elle devait faire et même qu'elle n'a pas tout dépensé, qu'elle aurait pu faire plus. Elle lui demande s'il lui pardonne. Il dit oui. Elle lui dit qu'il dira à Gilles qu'elle pense à lui. Il lui promet. Et il leur donnera de ses nouvelles. Elle aimerait aller avec lui, mais c'est dangereux à deux. Et puis, elle n'a pas assez d'argent. Il la quitte. Il a tout juste le temps d'entrer dans son wagon que le train se met en route. Il s'assoit et se dit qu'il a 2 heures de tranquillité. Si on ne le reconnaît pas. Après Paris, que faire? Le train file, quitte Lyon et sa banlieue. Un contrôleur lui demande son billet, il le lui tend, il n'a rien dit. À côté de lui, il y a un jeune homme qui s'endort. En face de lui, une jeune fille qui passe son temps à téléphoner. Ça énerve parce que il ne peut pas se détendre. Et il a peur pour lui. Il regarde le paysage défiler. Des prés, des bois, brûlés par la chaleur, c'est marron, gris, noir, pas de vert. Si la fille ne téléphonait pas, il pourrait essayer de dormir. Mais là, c'est impossible. Le trajet est long et pénible. Et puis, il est inconscient de partir comme ça. Il risque d'être pris. Retourner là-bas, c'est dangereux. approche de Lyon, plus le ciel est gris. Il était très inquiet. Enfin, gare de Lyon.
Départ initialement prévu 20h16 à destination de Montargis est supprimé.
Il descend, plein de monde, police, CRS, armée. Ils sont encore plus nombreux qu'à Lyon. Il suit la foule pour quitter la gare. Il veut la quitter le plus vite possible. Voit que l'on fait beaucoup de contrôles d'identité et de bagages. Et la peur, très peur. S'il est pris, c'est sa fin. A hâte de quitter la gare. Se met au milieu de la foule pour ne pas être vu. Ouf, la sortie de la gare. Foule pour prendre un taxi ou car. Là aussi, il y a la police. La ville est grise, triste. Et toujours ce vent, toujours ce vent. Les gens se dépêchent pour entrer chez eux. Vite, ils traversent pour aller de l'autre côté où il n'y a pas de contrôle. Monsieur, monsieur! Il a peur, marche d'un bon pas. Monsieur! Il est pris par derrière, se retourne. C'est un flic. Papier, s'il vous plaît. Pierre se sent perdu. D'un geste brusque, il se dégage et se met à courir sur la chaussée. On lui court après, au milieu des voitures. Il se faufile. Un car à l'arrêt. Vite, il saute dans le car qui se met en route tout de suite. Le policier a eu le temps de le voir entrer dans le car. Pierre a peur qu'on fasse arrêter le car. Mais non. Peut-être va-t-il prendre son numéro, le numéro du car et téléphoner à ses collègues pour qu'ils arrêtent le car. Prend un ticket du car pour le car. Il ne sait pas où il veut aller. Il se dit, voilà, à peine arrivé à Paris et je suis pris. Il aurait mieux fait de rester à Lyon. Oui, mais Gilles, il est à Paris et lui le cherche. Comment le chercher? À chaque arrêt du car, il a peur. Que la police demande des identités. Mais non. Et puis il y a du monde dans le car. C'est l'heure où les gens entrent chez eux. La plupart des gens sont tristes. Ils sont inquiets. Se demandent ce que vont devenir, ce que va devenir Paris et la Seine. Quelques jeunes insouciants s'embrasse, rit, ne pense qu'à s'amuser. L'insouciance est aussi une arme du démon. Le côté cool aussi. Il aime la jeunesse. Et la jeunesse aime être cool. Alors, il faut les laisser faire. Ils aiment qu'on veut. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Pas de contraintes. faire ce que l'on veut. C'est les mener vers où il veut les mener. Et pour ça, il faut que chacun soit égoïste. Et en devenant égoïste, on fait mal aux autres. Puis Pierre, en les voyant, se dit qu'il n'a jamais aimé, il n'a jamais connu l'insouciance. Et oui, il n'a jamais connu l'insouciance, et maintenant, il la connaîtra peut-être jamais. Il se dit que si les autres savaient ce qu'ils risquent, je ferais rien pour l'aider. Il enfoncerait plutôt. Le temps passe. Il essaie de voir s'il n'y a pas de voiture de police qui suit le car. Non, et puis ce serait difficile avec la circulation qu'il y a. Il hésite, c'est de se détendre. Parce qu'il se dit que le car le protège. Et où va-t-il descendre? Peut-être en banlieue parisienne? Il descend. Il a descendu à l'arrêt de l'Assemblée nationale. L'arrêt se trouve sur les quais. Regarde la Seine. Elle est bien basse, bien basse. Il se demande ce qu'il va faire. Comment trouver Gilles ? Traverse et se trouve à côté de l'Assemblée nationale. L'allonge. Se trouve sur la place qui est en face de l'entrée. L'allonge. Prend une rue en face. C'est la rue Saint-Dominique. Voir que c'est la rue du ministère. La suit. Une église. Un jardin. Un square. Fatigué, il s'assoit sur un banc. Des mères viennent avec leurs enfants. Ça donne un tableau touchant. La rue Saint-Dominique, avec ses maisons, hôtel, on a l'air de se trouver dans un autre temps. Vieille France, douce France. C'est reposant. Les enfants jouent sagement. Pierre aimerait toujours rester comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu dans un endroit calme et reposant. Même à Lyon, c'était pas aussi calme parce qu'à Lyon, il fallait s'occuper des SDF. Le temps passe. Il se dit qu'il doit faire quelque chose. Mais quoi? Aller où? Gilles peut être de partout et nulle part. Les mamans emmènent leurs enfants. Lui se lève et sort du square. Il ne sait pas où aller. Il se dit qu'il ne peut pas trouver ici. Et puis, il ne faut pas qu'il traîne dans cette rue. Il va se faire remarquer. Et puis, avec sa valise à la main, on voit que ce n'est pas un promeneur. Il faut... qu'il cherche. Il fait quelqu'un qui ne sait pas où aller. Longe la rue Saint-Dominique et tombe sur la rue Bellechasse. Belle rue, avec de beaux commerçants et belles maisons. Il a faim. Entre dans une boulangerie pour avoir un sandwich. Il en achète un. C'est gênant d'entrer dans un magasin, dans une rue comme celle-là, juste pour prendre un sandwich. Ça fait pauvre. Et pauvre qui traîne. On le sert de mauvaise grâce. La mère de la famille qui achète le pain et des gâteaux, elle aussi regarde ce garçon qui pourrait être un de leurs fils, mal habillé, d'une façon étonnante. Elle se dit, encore un qui traîne dans le quartier. On n'est plus en sécurité maintenant. Avant, on était si bien. Les gens n'aiment pas les étrangers dans leur quartier. Il mange en marchant, ça fait pauvre. En passant devant le restaurant, il voit qu'il y a du monde. Là aussi, il aimerait s'y entrer dans ce restaurant pour manger tranquillement une bonne chose. Mais il n'en a pas les moyens. Être pauvre, c'est un côté dégradant. Pauvre Pierre, dans tous les sens du terme. Il n'est pas le seul à être pauvre. Il y a plus de riches, mais ici, alors le pauvre rase les murs, se fait invisible, tandis que les autres, sur deux, se montrent. Ils se sentent dans leurs droits et se disent, eux, ils sont des gens honnêtes. La preuve, on n'est pas pauvres SDF. Ils ont leurs commerçants, leurs concierges, leurs connaissances. On les connaît dans la rue. Ils sont chez eux, estimés par les autres. On est un être grand, bien. La concierge les connaît et les respecte parce qu'ils ont une respectabilité. Même s'ils sont plus près des SDF, ils les chassent et les déménagent parce qu'ils disent qu'ils sont plus près des riches. Oui, les concierges, même s'ils sont plus près des SDF, ils les chassent et les dénigrent parce qu'ils disent qu'ils se croient plus près des riches. Les concierges, les domestiques disent nous en parlant et se croient faire partie des riches parce qu'ils les connaissent et les estime. Les pauvres est chassé par les pauvres. Le pauvre près du riche, le pauvre pour travailler, auprès du riche devient, ils doivent se dénigrer sa classe et ceux qui sont pauvres, plus bas que lui. Ils votent comme le riche, ont les mêmes idées politiques que le riche et même défendent le riche. Le pauvre, domestique et concierge, c'est un chien de garde des riches qui gardent leurs privilèges. Il a été si bien dressé, la preuve le chien de garde défend les intérêts du riche comme une forteresse. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.